Le piège, chapitre 8. À 10 heures précises, Bridé arriva rue Lucas. Il avait renoncé à déposer sa valise dans un café voisin de la station de car, de peur, au cas où il eût été suivi, qu'on ne supposât qu'il ne voulait pas se rendre à la convocation. Il l'avait confié à un commerçant, qui fit d'ailleurs des difficultés pour en accepter la garde. La rue Lucas, toute proche du parc, était la plus paisible qui fût. On n'y voyait aucun magasin. Par contre, à l'entrée de presque chaque immeuble, de superbes plaques de médecins étaient fixées. Bridé eut beaucoup de difficultés à trouver le bureau de la Sécurité nationale. Aucune indication extérieure n'était visible. Sous la voûte, rien non plus. Il ouvrit une porte vitrée qui donnait sur un vaste hall, au milieu duquel s'élevait l'escalier principal. À la boule de cuivre ciselée terminant la rampe, un écriteau de carton était accroché. Les deux mots, « Sécurité nationale », y étaient écrits, mais sans mention d'étage. Comme il ne semblait pas y avoir de concierge, Bridé ressortit, frappa à une fenêtre dans la cour. « Ça, c'est bien l'esprit fonctionnaire, » pensa-t-il. « Ces messieurs se croient indispensables. On ne peut pas se passer d'eux, n'est-ce pas? Si on veut les voir, eh bien, on n'a qu'à se donner la peine de les chercher. Ce n'est pas à eux de se déranger. » Les locaux de la Sécurité nationale étaient installés dans l'appartement de l'entresol. Seules, les heures d'ouverture étaient inscrites à la porte. Bridé sonna. C'était ridicule. Mais le fait que l'invitation d'entrer sans frapper ne figurât pas sur la porte lui fut désagréable. Personne ne répondit. Il tourna le bouton et se trouva dans un vestibule meublé d'une table de bois blanc et d'une chaise réservée à un employé. Celui-ci était absent. Bridé lut le mot « renseignement ». Il frappa à une porte. « Entrez » cria-t-on. Il se trouva en présence de 4 hommes, assis chacun devant un petit bureau individuel. Il eut le sentiment qu'il avait interrompu une conversation. Ces hommes l'examinèrent. Bridé s'approcha de celui qui était le plus près de la porte et lui montra la convocation. L'employé la lut plusieurs fois, sans doute, car il resta un long moment les yeux fixés sur ces quelques lignes. « C'est vous, monsieur Bridé ? » demanda-t-il enfin. « Oui, c'est moi. » « Monsieur Joseph Bridé ? » ?»« Oui, oui. » L'employé se tourna vers ses collègues, regrettant visiblement de ne trouver d'autres questions à poser. « Le chef n'est pas encore arrivé, hein ?» Bridé pensa une seconde qu'il pouvait en profiter pour partir. Il dit « Dans ce cas, voulez-vous être assez aimable de dire que je suis venu et que je repasserai plus tard ?» Les 4 hommes se regardèrent. « Si vous êtes convoqué, il vaut mieux que vous attendiez. » dit l'un d'eux. « J'étais convoqué pour 10 heures. »« Oui, oui, je le sais. Monsieur le directeur ne va pas tarder, » dit un autre qui voulait paraître avoir plus d'usage que ses collègues. « Ah, très bien, » dit Bridé. « Vous n'avez qu'à vous asseoir dans l'entrée. D'habitude, il est toujours là, mais il est en retard. » Bridé s'assit sur un banc de chêne poli, placé le long du mur. Une ampoule sans abat-jour éclairait le vestibule. Un peu de clarté venait aussi par une porte de verre granité, celle de l'ancienne cuisine probablement. Il n'y avait pas de tapis, mais des clous de cuivre demeuraient encore fichés dans le parquet. Sur un mur, pas au milieu, un peu dans l'ombre, une petite photographie du général Végan. Il était en uniforme, mais nu-tête, ce qui lui donnait l'air d'un homme indépendant, prêt à s'engager dans la voie qu'il jugerait la meilleure au moment opportun. De temps en temps, la porte d'entrée s'ouvrait. Personne ne semblait s'apercevoir de la présence de Bridé. Les visiteurs s'engageaient sans hésitation dans le couloir, entr'ouvraient des portes, les refermaient. Bridé était moins inquiet. Il se disait que s'il y avait eu quelque chose de vraiment grave, le directeur n'eût pas été en retard. Le peu d'empressement qu'il mettait à le recevoir était l'indice qu'il avait à s'occuper d'affaires plus importantes. Bridé alluma une cigarette. il remarqua que les verrous avaient été ôtés, sans doute par les précédents locataires, et qu'il y avait à la place, dans la porte, des trous aussi gros que des pièces de 2 francs. Ce détail avait quelque chose de sympathique. On semblait camper, on semblait ne pas songer à arrêter les gens. Au bout d'une demi-heure d'attente, Bridé se leva et se mit à marcher de long en large dans le vestibule. Déjà, les visiteurs qu'il avait vus entrer étaient ressortis. Certains même étaient revenus. Cela devenait gênant d'être toujours là. Le directeur, d'ailleurs, était peut-être arrivé et on avait oublié de prévenir Bridé. Ce dernier frappa doucement à la porte de la pièce occupée par les 4 employés. « Nous le saurions, » dirent-ils, « s'il était là. » Bridé retourna s'asseoir dans l'entrée. Il pensa qu'il n'avait qu'à laisser un mot, écrire qu'il était venu, qu'il avait attendu, mais qu'ayant un rendez-vous, il avait dû partir. À ce moment, un jeune homme élégant venant du fond de l'appartement s'arrêta devant lui. « Vous êtes Monsieur Bridé ? » demanda-t-il. « Oui. Monsieur Saussier s'excuse d'être en retard. Il va arriver dans 1 quart d'heure, au plus. Il vous prie de l'attendre. » « C'est très ennuyeux, » dit Bridé, réconforté par ce ton courtois. « Je dois justement voir M. Basson tout à l'heure à l'intérieur. Est-ce qu'il est 11 heures ?» Le jeune homme regarda sa montre. « Il n'est pas 11 heures, » dit-il. « Oui, mais il faut le temps d'y aller. Voulez-vous que je téléphone à M. Basson pour lui dire que vous êtes ici ?»« Oh non, ce n'est pas la peine. Voulez-vous téléphoner vous-même ?» Bridé feignit de trouver l'idée excellente, puis, tout à coup, comme s'il se ravisait, « Oh, après tout, il m'attendra. » Bridé se rassit. Une demi-heure s'écoula encore, coupée par des allées et venues de plus en plus nombreuses. De temps en temps, le jeune homme élégant revenait pour faire patienter le visiteur. À la fin, comme frappé de n'avoir pas eu cette idée plus tôt, il lui dit « Mais venez donc dans mon bureau, vous serez beaucoup mieux. Excusez-moi de ne pas y avoir pensé avant. » « C'est qu'il est déjà 11h30, » remarqua Bridé. « Si c'est à cause de M. Basson que vous vous inquiétez, rassurez-vous. Je viens de téléphoner à l'intérieur. Il ne viendra pas ce matin. »« Ah bon, dans ce cas, tout est changé, » dit Bridé en paraissant soulagé. « Je peux attendre. » Au fond du couloir se trouvait un réduit où était remisé un buffet de salle à manger démonté et un sommier. Le secrétaire ouvrit une autre porte. À la grande surprise de Bridé, elle donnait sur un petit escalier intérieur tout neuf. « Je vous fais prendre le chemin le plus court, » dit le secrétaire. « Excusez-moi, je passe devant vous, je vous montre le chemin. »« Mais où allons-nous ? » demanda Bridé. « À l'étage au-dessus. » Un instant après, Bridé se trouvait dans un autre appartement qui n'avait rien de commun avec celui qu'il quittait. Il était meublé luxueusement. Du hall, auquel un tapis rouge, des appliques à 3 branches et une sorte de desserte à pied doré donnaient grand genre, on apercevait, à travers les 2 battants vitrés d'une porte, un salon tout aussi somptueux. « Je vais prévenir, monsieur le directeur, » dit le secrétaire. « Il doit être arrivé maintenant. » Bridé eut une sorte de haut-le-corps comparable à un hoquet silencieux. Que signifiait cette attitude bizarre du jeune homme élégant ? Pourquoi disait-il à présent que le directeur était là, alors qu'il était venu simplement chercher le visiteur pour le conduire dans un endroit plus confortable ? Bridé n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Le secrétaire entr'ouvrit la porte vitrée. « Est-ce que Monsieur Bridé peut entrer ? » demanda-t-il. La réponse parvint dans le hall. « Mais naturellement. » Le secrétaire s'effaça et Bridé se trouva tout à coup dans la grande pièce claire et gaie. Il aperçut à sa gauche, dans le fond, derrière un bureau qu'on ne pouvait voir du hall, un homme assis. Cet homme se leva. Il avait des cheveux plats, très clairsemés, comme peints sur le sommet de la tête. Il portait un col à midonné et, à sa boutonnière, une minuscule rosette de la Légion d'honneur dont le rouge vif était mis en valeur par la teinte sombre du veston. Bridée eut tout de suite le sentiment qu'il ne se trouvait plus, comme jusqu'à présent, en présence de camarades de son âge, de jeunes hommes prenant des airs énigmatiques pour imposer, mais en présence d'un véritable haut fonctionnaire. Ce monsieur Saussier était visiblement quelqu'un. Il ne devait rien à la défaite. Il avait déjà dû occuper d'autres postes importants avant la guerre.
« Excusez-moi, dit M. Saussier, de vous avoir fait attendre. Veuillez vous asseoir. Je vous ai prié de passer me voir ce matin parce que j'ai à vous parler.
Mais, monsieur, cela n'a aucune importance, c'est tout naturel.
Vous êtes, je crois, un grand ami de notre sympathique Basson.
Oh, je ne suis pas un grand ami, je suis simplement un ami de Basson, répondit Bridé prudemment.
Vous avez été quand même heureux de le revoir.
Très heureux, dit Bridé.
Vous saviez qu'il était ici?
Je l'ai appris à Lyon.
Comment?
Demanda M. Saussier négligemment. On sentait qu'il était un peu gêné qu'un homme de son importance posât des questions en apparence si anodines. Aussi le faisait-il en annotant des papiers, comme si, occupé par ailleurs, il ne parlait que pour empêcher l'entretien de tomber.
Le plus simplement du monde. Dans les semaines qui ont suivi l'armistice, nous avons tous cherché à savoir ce que nos amis, et quelquefois même des gens auxquels nous n'attachions aucune importance, étaient devenus.
Oui, oui. J'ai éprouvé cela.
Quel souvenir!
D'ailleurs, je n'ai pas été voir que lui. J'ai été voir également Lavessère, que vous connaissez sans doute. Il est au cabinet du maréchal. C'est un de mes amis, ou plutôt un ami de la famille de ma femme. La mère de Jeanne Lavessère est née quatre phages. Mon beau-père a été longtemps le directeur de la FAL, la compagnie maritime France-Amérique latine, dont M. Lavessère, père, était un des fondateurs.
Oui, oui, mais ne nous écartons pas trop de notre sujet. Revenons à Basson. Vous lui aviez demandé, d'après ce qui m'a été raconté, de vous aider à partir. C'est bien cela, n'est-ce pas?
Pas exactement. Je lui ai dit, je viens me mettre au service du maréchal.
Mon zèle l'a fait un peu sourire. Il m'a dit, c'est très beau de ta part, mais as-tu quelque chose à proposer?
J'ai pensé alors à notre empire. Je lui ai dit, vous devriez envoyer des hommes sûrs là-bas.
Et qu'est-ce que Basson vous a répondu?
Il m'a approuvé. Il m'a dit d'ailleurs que c'était ce qu'on faisait et qu'il m'y enverrait dès qu'il le pourrait. Je crois d'ailleurs que c'est fait. Je devais justement passer ce matin à l'intérieur. Je ne l'affirmerai pas, mais il me semble bien que mes papiers sont prêts.
Monsieur Saussier eut l'air de se réjouir de cette nouvelle.
« Au fond, dit-il, Basson a été très gentil pour vous. »«
Très !» Saussier appuya sur un bouton. Un homme parut dans l'embrasure d'une porte, non pas à la manière d'un secrétaire, mais avec la familiarité d'un parent ou d'un ami.
« Venez, Schlesinger !»
C'était un homme grand, mince, voûté, avec un long nez busqué et fin. Il portait des binocles d'or. Il avait la coquetterie de se vieillir en laissant tomber les cendres de sa cigarette sur lui. Il était d'une origine plus difficile à déceler que celle des Houtenins, Basson, Vauvray, Rouennais, Saussier même. Il donnait l'impression d'un universitaire ne faisant pas personnellement de politique, mais ayant su se rendre indispensable dans des milieux où on en faisait. Il avait peut-être pensé que ses longues études le distingueraient plus là où elles n'étaient pas nécessaires. Il avait peut-être renoncé au but pour lequel il les avait faites et sacrifié un idéal de jeunesse pour une considération et des profits plus rapides. Bridé sourit. En réalité, il se trouvait dans un état d'énervement extraordinaire. Il ne comprenait rien à ce qui se passait. Il ne voyait pas pourquoi on l'avait convoqué. On semblait tenir à échanger avec lui quelques idées. Mais enfin, on ne convoque pas les gens à la police pour échanger des idées. M. Saussier s'adressa à son collaborateur.
Je voudrais vous répéter ce que vient de me dire M. Bridé. C'est très intéressant.
Ah bon ?
Dans ce cas, attendez un instant, dit Schlesinger. Je vais chercher ma serviette.
Bridé regarda le directeur de la sécurité avec étonnement. Qu'avait-il donc dit de si intéressant ?
Schlesinger revint peu après. Il s'assit près du bureau, écarta des papiers, posa sa serviette devant lui.
« Prenez ma place, » dit Saussier, « vous serez mieux. »«
Oh, merci, ce n'est pas la peine, » répondit Schlesinger en jetant un coup d'œil à sa montre bracelet.
« Vous savez qu'il est midi et demi. On ferait peut-être mieux de commencer cet après-midi. »«
J'en ai pour quelques minutes. Il est préférable que vous soyez au courant. »
« Nous continuerons cet après-midi, si c'est nécessaire. Je vais vous résumer rapidement les déclarations de M. Bridé.
»« Les déclarations ?» s'écria Bridé en riant.
« Le mot est un peu solennel. »«
Voici, » continua Saussier, sans avoir paru entendre cette interruption. « M. Bridé prétend que, désirant servir notre gouvernement, il est venu de lui-même à Vichy, sans y avoir été invité par personne, pour prendre contact avec des amis. Il a vu Basson, M. Lavesser. C'est bien cela, M. Bridé.
En effet, mais avec cette nuance que je ne prétends pas, car c'est la vérité.
Ça ne concorde pas exactement avec ce que m'a dit Basson, observa Schlesinger, qui n'avait pas encore ouvert sa serviette.
Vous croyez donc que ce serait Basson qui aurait fait le premier pas ? Poursuivit Saussier.
Ces trois derniers mots, le premier pas, causèrent un froid à Bridé.
Schlesinger se tourna à ce moment vers ce dernier. Il avait une cigarette à la bouche. La fumée lui faisait cligner les yeux.
« Vous affirmez n'avoir jamais vu Basson ailleurs qu'à Vichy ? Ne l'avoir pas vu à Lyon, par exemple ?»«
Jamais !» s'écria Bridé, qui, tout à coup, pour la première fois, venait d'avoir l'impression que ce n'était plus lui qui était en cause, mais Basson.
Ce dernier avait fait quelque chose de grave. Ne pouvant répondre de ses actes devant ses collègues, un fonctionnaire étranger à la police, mais ayant des attaches avec elle, menait l'enquête.
Son regard se troubla, au point qu'un liquide étranger semblait s'être répandu sur la cornée.
Si Basson était coupable de quelque chose, Bridé, en grossissant son amitié pour lui, en se recommandant d'elle, s'était reconnu son complice.
Schlesinger ouvrit sa serviette. Il en tira quelques papiers qu'il passa à Saussier, qui les lut attentivement.
« Vauvray et Kerwell auraient donc été trompés par les renseignements généraux, » remarqua Saussier peu après.
« Pourquoi ?
Je croyais qu'il n'existait pas de double. »«
Si, si, Hilde n'est pas si bête. Il les connaît. »
Depuis une minute, Bridé cherchait comment revenir sur ce qu'il avait dit, comment ôter à son amitié pour Basson l'importance qu'il lui avait imprudemment donnée.
Il transpirait tellement que la sueur coulait jusqu'à son col et en mouillait le bord. Il n'avait pas perdu une réplique du dialogue des deux policiers, mais ces hommes étaient maîtres dans l'art de se comprendre à demi-mot devant un tiers.
« Vous m'intriguez, messieurs, » dit-il en essayant d'avoir l'air naturel.
« De quoi s'agit-il donc ?»
Basson a affirmé qu'il vous connaissait en effet, que vous étiez venu le relancer, mais qu'il vous avait chaque fois éconduit et qu'il n'avait jamais songé une seconde à vous donner un sauf-conduit pour l'Afrique. Il a même précisé que vous ne lui inspiriez aucune confiance.
Comment ? S'écria Bridé en simulant de l'indignation.
Voulez-vous que je lui téléphone devant vous ?
Les deux chefs de la police se firent un signe.
Il n'a plus le téléphone. Ne put s'empêcher de dire M. Saussier.
Tâchez de passer après déjeuner à l'hôtel du Parc, fit Schlesinger. Il faudrait que de la Chazelle nous confie les télégrammes, du moins jusqu'à ce soir.
Bridé se leva à demi.
Je tiens à téléphoner, répéta-t-il.
Ne vous énervez pas, monsieur Bridé.
Il y a 3 heures que je suis là. Si c'est de cette façon qu'on traite ceux qui veulent servir le maréchal.
« Faites quand même attention à ce que vous dites, monsieur Bridé.
Le maréchal ignore certainement ce qui se passe autour de lui. Il ne le tolérerait pas s'il le savait. »
Saussier et Schlesinger se regardèrent.
« Vous commencez à tirer un peu trop sur la corde, » observa le directeur de la sécurité. « Laissez le maréchal en paix. » « Nous reprendrons notre conversation, » dit Schlesinger en regardant sa montre. « Il est déjà 1h20. » S'adressant à Bridé, mais sur un ton beaucoup moins cordial qu'au début, comme si le mouvement d'humeur de Bridé lui rendait sa liberté, Saussier poursuivit. « Je crains que vous ne trouviez plus rien à manger dans les restaurants. Vous allez descendre à l'étage au-dessous. Un des messieurs que vous avez vu en arrivant va vous conduire dans un très bon petit restaurant ami qui se trouve tout près d'ici. De cette façon, vous pourrez revenir tout de suite après déjeuner afin que nous en finissions avec cette histoire. » Bridé faillit dire qu'il avait rendez-vous, mais il avait tellement peur de s'apercevoir qu'il était prisonnier qu'il préféra rester dans le vague. « C'est une très bonne idée, » dit-il.